Le Corse et l'Auvergnat.
Jérémy Gallon.
Romain Marcilli.
Bonjour Romain.
Bonjour Jérémy.
Pour ce dernier épisode de la saison, nous avons la joie de recevoir la journaliste et essayiste Sophie Coignard pour parler d'un sujet qui nous tient très à cœur, le mérite. Une notion qui est censée être au cœur de notre modèle démocratique et auquel Sophie Coignard consacre un ouvrage passionnant publié aux éditions de l'Observatoire et intitulé « La tyrannie de la médiocrité ». Bonjour Sophie.
Bonjour.
Bonjour Sophie. Tout au long de votre livre, en effet passionnant et par de nombreux aspects édifiants, vous nous expliquez en quoi le concept de mérite a désormais très mauvaise presse en France et peut-être plus généralement en Occident. Vous faites vôtre la définition du mérite de Condorcet, à savoir un alliage de talent, d'efforts et de sens de l'esprit public. Vous nous montrez en quoi cet alliage est aujourd'hui fortement attaqué. Et nous allons en reparler en détail pendant toute une discussion. Mais avant cela, pour illustrer cette bataille intellectuelle qui pourrait paraître surprenante de premier abord, contre le mérite, on apprend dans votre ouvrage que le concept de méritocratie, souvent brandi de manière positive comme un idéal à atteindre, est à l'origine très péjoratif, dépréciatif, puisqu'il a été inventé par un sociologue britannique, Malcolm Young, dans un roman uchronique un peu à la 1984, pour dénoncer une société qui serait totalement régie par le mérite. Mais quand Orwell, dans 1984, dénonce le totalitarisme, Young dénonce le mérite, un concept pourtant inhérent à la justice a priori. Alors comment, selon vous, des intellectuels ont pu se mettre à détester à ce point le mérite?
Ça a été, en effet, pour moi, un motif, une source de stupéfaction. Puisque au départ, moi, je me suis intéressée au mérite il y a quelques années, quand j'ai vu la ministre de l'Éducation nationale de l'époque, Najat Vallaud-Belkacem, vouloir, avec une sorte d'acharnement tout à fait étonnant, supprimer les bourses au mérite. Qu'est-ce que c'était que les bourses au mérite? Eh bien, c'était les bourses qu'on accorde aux étudiants déjà boursiers au lycée, donc d'origine modeste, qui ont la mention très bien au baccalauréat. Il me semblait que le fait de donner 1000 euros de plus à ses élèves pour pouvoir effectivement, au lieu de travailler par exemple au McDo, pouvoir faire une prépa, se consacrer à l'étude, était une manière, non pas de restaurer l'égalité des chances, ne soyons pas naïfs, mais au moins de donner une sorte de compensation que je trouvais le SMIC du mérite, en quelque sorte. Et donc, j'ai été tout à fait indignée que ce soit une ministre de gauche autoproclamée prennent une telle décision, et surtout le Conseil d'État l'a empêché de le faire, elle s'est acharnée, il y avait une sorte d'acharnement idéologique dans le fait de faire cela, de la part de cette ministre, mais aussi d'une partie de la gauche qui m'a beaucoup interpellée. Et donc, j'ai commencé mon enquête, et une des premières choses que j'ai découvertes, en effet, c'est que le terme de méritocratie n'était pas du tout à l'origine un terme positif, puisque c'était un néologisme inventé, comme vous l'avez dit, par un sociologue britannique très lié au Parti travailliste, et qui a inventé effectivement cette incroyable uchronie dans laquelle, pour faire court, tous les gens, tous les enfants à l'école sont jugés sur leur seul mérite. Il n'y a plus aucun déterminisme lié à votre origine sociale. C'est absolument le contraire de l'ancien régime et la loi de l'héritage. Que constate-t-on? Eh bien, que c'est beaucoup plus insupportable que n'importe quel système féodal. C'est ce que défend Michael Young. Autrement dit, si vous échouez dans un système extrêmement imparfait, voire dans un système féodal, vous pourrez vous dire que vous n'avez pas eu de chance, que le sort ne vous a pas été favorable, que vous êtes né dans le mauvais milieu, la mauvaise famille, etc. Si vous échouez dans un système purement méritocratique, eh bien, vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous-même, pour faire court. À l'inverse, si vous réussissez, vous allez être ivre de vous-même. C'est-à-dire, vous allez pouvoir vous dire, non pas, j'ai quand même eu de la chance à tel concours, je suis tombée sur un truc que je connaissais bien. Non, vous allez vous dire, je suis vraiment le meilleur, je suis extrêmement fort. Et donc, cette espèce d'hubris qui va s'emparer de vous, va vous rendre à la fois, pour vous faire ça encore une fois très court, arrogant et méprisant. Et donc, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin sur le fossé social qui va se creuser entre les uns et les autres. C'est cela, au départ, la méritocratie. Et c'est ce qu'a défendu un grand professeur de Harvard, Michael Sandel, dans son livre qui s'appelle « La tyrannie du mérite ». Et c'est pour ça que j'ai appelé le mien « La tyrannie de la médiocrité ».
Alors, Sophie Coignard, revenons sur les origines historique du mérite. Il y a une citation que je trouve très belle, qui est dans votre livre, extraite du mariage de Figaro de Beaumarchais en 1784. C'est l'adresse du célèbre valet au comte Almaviva, et je le cite. « Parce que vous êtes un grand seigneur, vous vous croyez un grand génie. Noblesse, fortune, un rang, des places, tout cela vous rend si fier. Qu'avez-vous fait pour tant de bien? Vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus. Tandis que moi, morbleu, perdu dans la foule obscure, il m'a fallu déployer plus de science et de calcul pour subsister seulement qu'on en a mis depuis 100 ans à gouverner toutes les Espagnes. » Et donc, en fait, cette citation, vous l'utilisez pour effectivement mettre en opposition l'ancien régime, où la naissance déterminait tout, à un ordre social fondé par la Révolution et que reprendra ensuite la République, qui devrait être celui du mérite. Et vous évoquez un certain nombre de figures qui vont défendre, quelle que soit leur sensibilité politique d'ailleurs, le mérite. On voit au fil des pages de votre essai, par exemple, Guizot, qui en 1821 chante les louanges du mérite, mais c'est aussi Jean Zay, ministre de l'Éducation nationale dans le gouvernement du Front populaire. Et évidemment, on a quasiment un âge d'or de la méritocratie sous la Troisième République. Et pourtant, ce que l'on a observé que vous venez de décrire, c'est un glissement assez radical vers la condamnation du mérite, la condamnation de la méritocratie et, quelque part, une trahison notamment de la gauche à l'égard d'une valeur qui a longtemps été associée à une valeur de gauche et pourtant qu'elle rejette aujourd'hui. Où est-ce que vous voyez justement le point de bascule et comment vous expliquez qu'il y a eu une bascule de la gauche, de ceux qu'on appellerait les progressistes, contre le mérite, contre la méritocratie?
Alors, c'est compliqué de trouver une datation précise, mais je dirais qu'il y a une succession d'événements ou de mouvements qui précipitent tout cela. Vous avez ce qu'on appellera la pensée 68, c'est-à-dire cette idée que l'école est une sorte de lieu d'oppression, où la transmission des savoirs est une manière de reproduire la pensée des dominants, et qui évidemment va déboucher sur ce que j'appelle, je ne suis pas la seule, le pédagogisme. En gros, l'idée que la transmission des savoirs doit être mise de côté au profit de l'épanouissement de l'élève, de la construction de ses propres savoirs, etc. Bon, il serait trop long pour moi de faire le réquisitoire de cet horrible pédagogisme, mais en tout cas, le résultat est là, et là je dois dire qu'il est quand même tout à fait indiscutable. Vous prenez n'importe quel classement de la France par rapport à l'ensemble des pays de l'OCDE, qu'il s'agisse des mathématiques, de la lecture, de l'apprentissage du français, ça fait quand même 30 ans que nous ne cessons de régresser. Donc, si on dit que le niveau baisse, on passe pour un horrible réactionnaire, mais pour dire que le niveau monte, il faut quand même avoir un grand, grand, grand degré de storytelling. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand même, effectivement, que si on reprend la définition du mérite, cette espèce, ce que j'appelle ce trépied que Romain Marcilli mentionnait tout à l'heure, eh bien, il faut bien se rendre compte qu'il y a des pieds qui ont un peu disparu. Autrement dit, je fais un chapitre sur ce que j'appelle l'infirmière et le trader, qui est un peu rapide comme comparaison, je vous l'accorde. Mais l'idée, c'est quand même que, en gros, si vous prenez le talent, le travail et, disons, le service que vous pouvez rendre à la collectivité, l'esprit public, aujourd'hui, il y a une distribution des richesses qui n'est pas tout à fait conforme à cette idée des lumières du mérite. Donc, effectivement, il y a cette distorsion, comment dirais-je, fait le lit de tous les contempteurs du mérite. Quand je vous parlais de la pensée 68, je pensais notamment à Pierre Bourdieu, et que dans le sillage de Pierre Bourdieu, vous trouvez quand même quantité d'écrivains, de sociologues, d'intellectuels, notamment de ceux qui s'appellent les transclasses, pour ne pas vous dire, écoutez, moi j'ai eu une chance merveilleuse grâce à l'école républicaine, j'avais des parents modeste, il n'y avait pas de livres chez moi sur les étagères et j'ai réussi grâce à l'école, grâce à l'université à faire des études, à me cultiver, à faire des choses intéressantes dans la vie. Non, ces gens, les transclasses vous disent, à l'image par exemple de notre prix Nobel national Annie Ernaux, qu'il est hors de question qu'il soit l'alibi d'un système oppresseur. À partir du moment où les figures qui pour moi pourraient être des figures d'espoir pour tous les enfants des écoles, pour être un peu basique, eh bien sont devenus des repoussoirs du mérite. Donc si vous faites l'alliage de tout cela, c'est-à-dire à la fois de mouvements idéologiques et puis d'évolution objective, encore une fois. David Goodhart, sociologue britannique, a écrit un livre que je trouve merveilleux, qui s'appelle « La tête, la main, le cœur », et qui explique à quel point on survalorise l'élite cognitive par rapport à l'élite manuelle, artisanale, artistique, ou à l'élite altruiste, c'est-à-dire les gens qui s'occupent des autres. Donc, évidemment, cet alliage entre des faits objectifs et des mouvements idéologiques aboutit, à mon avis, à cet abandon lâche, certes, mais à cet abandon de la gauche.
On va revenir à la lâcheté, et pas que de la gauche, mais plus que une bataille contre le mérite. Est-ce que finalement, c'est pas aussi une bataille contre tout concept d'excellence, contre toute forme de distinction fondée sur un certain talent? Vous avez mentionné tout à l'heure l'auteur Michael Sandel, donc star, professeur star à Harvard, qui a un peu appliqué la théorie de John Rawls du voile d'ignorance pour la justice, c'est-à-dire pour John Rawls, imaginez que vous allez naître, vous ne savez pas dans quelle famille, vous allez naître dans quel milieu, imaginez quelle société serait la plus juste possible pour créer une théorie de la justice. Il a appliqué un peu le même raisonnement théorique à la question du mérite. Et c'est là où, comme vous le rappeliez, finalement, si l'essentiel des personnes interrogées pourraient choisir entre une société de type très aristocratique, féodale, ou une société plus républicaine, au sens large du mot, davantage fondée sur le mérite, la plupart des gens choisiraient le mérite, mais ils se trompent, se diraient qu'on a plus de chances ou moins de chances, et on ne n'intériorisait pas forcément nécessairement ses échecs ou ses réussites. Mais en France, il a été forcément lu, et vous mentionnez également un propos que je trouve assez stupéfiant d'un de ses disciples, Ismaël Lemoël, qui est polytechnicien. Or, transclasse, c'est un mot que j'aime pas beaucoup, mais effectivement, en tout cas, qui...
C'est comme ça qu'il se qualifie.
Voilà, c'est comme ça qu'il se qualifie. Et lui, donc polytechnicien, il propose tout simplement de supprimer le concours d'entrée à Polytechnique, et pour définir quand même qui rentre, parce que l'école ne va pas être rasée, d'organiser un tirage au sort parmi tous les élèves de classe préparatoire en France. Comme ça, je cite, les gagnants devront reconnaître leur chance et faire preuve d'humilité, et ceux qui n'auront pas été sélectionnés ne porteront pas le poids de l'échec sur leurs épaules toute leur vie. Est-ce que finalement, à travers ces différents propos, donc Lemoël, Sandel, est-ce que on ne retrouve pas le combat des intellectuels globalement contre ce mérite, comme une forme de philosophie devenue folle, pour reprendre l'expression titre du livre de Jean-François Bronstein, c'est-à-dire une lutte assez nihiliste contre tout ce qui peut faire la raison, le bon sens et l'excellence.
Je ne peux qu'approuver ce que vous venez de dire. À un moment, je me suis dit, mais en fait, tous ces intellectuels sont des punks. Ils considèrent qu'il y a absolument no future et que par conséquent, bah, peu importe. Sandel, donc Michael Sandel, je me permets de faire un tout petit rappel biographique. Michael Sandel, c'est la rockstar d'Harvard. Ses cours sont podcastés par millions à travers la planète. C'est vraiment quelqu'un dont la parole et la pensée comptent. Je n'aurais pas la petitesse d'âme de rappeler que peut-être que M. Sandel lui-même a profité du système méritocratique pour occuper la place qu'il occupe aujourd'hui. Mais laissons cela de côté. Michael Sandel dit à un moment, regardez, alors le système américain n'est pas comparable au système français, mais quoi qu'il en soit, il dit, regardez, finalement on reçoit, je ne sais plus, 40 000 formulaires de candidature pour Harvard. Bon, sur les 40 000, admettons qu'il y en ait 15 000 qui soient vraiment bons. Eh bien, pourquoi ne pas jeter ces formulaires sur l'escalier et voir ceux qui atteignent la première marche? Est-ce que ce serait plus ou moins injuste que de peser au trébuchet absolument toutes les caractéristiques de chaque candidat? C'est la seule chose qu'il propose. C'est là où je dis que c'est punk, où vous dites que c'est nihiliste. Ce qui m'a le plus atterré, c'est l'absence de proposition des opposants au mérite. C'est-à-dire que je suis partie en me disant que j'allais découvrir des choses formidables, que des intellectuels allaient proposer des alternatives à la méritocratie, qu'allaient être, sinon séduisantes, du moins, qu'allaient nous permettre de réfléchir ensemble, de s'interroger. Enfin, jeter les copies dans l'escalier, c'est pas trop haut niveau, quoi. Et en fait, rien. En fait, il n'y a rien. Je vous assure, j'ai écumé tous les livres, j'ai interviewé plein de gens, etc. Il n'y a aucune alternative, comme aurait dit une dame qu'on connaît. Il n'y a aucune alternative. C'est-à-dire que, y compris quand on interrogeait à l'époque le ministère de l'Éducation nationale sur cette suppression des bourses au mérite ou le ministère de l'Enseignement supérieur, on vous répondait, grâce à cet argent, on va pouvoir donner un peu plus de bourses à tout le monde. Donc on est dans une sorte de bonisme égalitaire. Je ne suis pas devin, mais je ne pense pas qu'il faille être un grand penseur stratosphérique pour l'envisager, qui évidemment n'est qu'un vecteur de plus de la reproduction.
Alors, on vient d'évoquer un certain nombre d'excès intellectuels contre le mérite. Mais ce que vous rappelez quand même dans votre ouvrage, c'est que quelque part, il y a eu une trahison également du mérite, de par son application. Condorcet énonçait les trois principaux ingrédients du mérite, le talent, l'effort, l'esprit public. On peut aujourd'hui se poser la question de savoir si la troisième dimension, l'esprit public, est encore présente. De la même manière, citation qui résonne évidemment avec votre chapitre, l'infirmière et le trader, le prix Nobel d'économie James Tobin, qu'on ne peut pas accuser d'anticapitalisme, et je le cite, « Nous jetons de plus en plus de ressources, dont le fleuron de notre jeunesse, dans des activités financières éloignées de la production de biens et services, qui génèrent des rémunérations individuelles sans rapport avec leur productivité sociale. » Et vous évoquiez tout à l'heure, évidemment, combien la crise du Covid avait mis en exergue ces différences de salaire entre certains emplois qu'on ne va pas citer, dont la contribution au bien public est plutôt limitée, et d'autres, infirmiers, médecins, enseignants, etc., qui ont un rôle immense dans la fabrique du lien social, dans le fonctionnement de notre société, mais qui sont de plus en plus sous-valorisés par le marché matériellement. De la même manière, vous rappelez que le capitalisme avait longtemps fait en sorte qu'il y ait un certain équilibre dans la répartition des revenus, mais celui-ci s'est complètement accentué au cours des dernières décennies. Vous, notamment, prenez l'exemple de David Rockefeller, le patron de la Chase Manhattan Bank, qui en 1969 touchait l'équivalent de 50 fois le salaire du caissier de sa banque. Celui qui, bien des années plus tard, lui succède, le patron de JP Morgan, Jamie Dimon, en 2020, touche l'équivalent de 1000 fois le salaire d'un employé équivalent à celui de caissier dans la banque d'aujourd'hui. Et donc, il y a quand même une question derrière tout cela. Est-ce que le mérite et le concept même derrière de méritocratie ne sont pas considérablement affaiblis parce qu'on a trahi le mérite en oubliant notamment son lien au bien public, son lien à cette idée de servir? C'était notamment Gambetta qui, dans la Troisième République, disait que les nouvelles capacités, ceux qui avaient le talent et qui méritaient, avaient le mérite de servir le bien public. Et donc, on a quelque part oublié cette dimension.
Je suis absolument 100%, 1000% d'accord avec vous. Et effectivement, le fait d'avoir oublié le cœur et la main, si je peux paraphraser David Goodhart, est un vrai problème et un problème récurrent. Et tant qu'on n'aura pas, d'une manière ou d'une autre, pris ce problème à bras-le-corps, la notion de mérite, me semble-t-il, ne pourra pas être restaurée. Néanmoins, et ça me peine parce que ça, évidemment, ça nuit à ma démonstration, mais l'honnêteté m'oblige à dire que déjà, il y a un siècle, un intellectuel français, Alain, issu d'une famille qu'on dirait aujourd'hui dysfonctionnelle, dans une province perdue de la France, est un excellent élève et va donc devenir professeur de philosophie en Cagne, dans un grand lycée parisien. Et il tient des propos qui m'ont un peu intriguée, parce que ce sont des propos qui pourraient être tenus par quelques-uns des transclasses d'aujourd'hui, je mets des guillemets, en substance. Il dit, voilà, vous prenez un élève brillant de temps en temps, parmi les prolétaires, et puis vous lui faites faire des études, vous lui apprenez les bonnes manières, vous le savonnez bien, vous le ripollinez bien, enfin c'est ce que ça veut dire, hein, vous le recouvrez d'une ou deux couches de vernis, et ça vous fera un excellent alibi. Donc cette idée de l'élève méritant, issu du peuple, qui n'est pas un exemple et un message d'espoir pour les autres, mais un alibi pour les dominants, n'est pas une idée qui date de l'augmentation des inégalités. Elle a déjà été formulée, par exemple, par Alain, il y a un peu plus d'un siècle. Je dis cela parce que, évidemment, ça m'a amené, en tout cas, à relativiser un tout petit peu le poids que je fais porter, qui est grand, hein, à ce qu'on pourrait appeler la smicardisation des enseignants ou à l'insuffisante reconnaissance du personnel soignant, etc. C'est vrai. Mais cette notion d'un parmi tant d'autres, cette idée-là est une idée qui, philosophiquement, préexiste à l'augmentation des inégalités.
Vous évoquez l'école, qui effectivement est centrale dans la question du mérite et qui est absolument centrale dans votre livre, puisque une grande partie de votre ouvrage est consacré à la destruction systématique, on pourrait dire, de la sélection par le mérite et puis globalement de l'excellence à l'école. Les exemples sont à la fois très nombreux, qu'il s'agisse de l'acharnement à imposer des méthodes de lecture absurdes, comme la méthode globale, la fin des bourses au mérite, vous en avez parlé, la dévalorisation sociale, financière du métier de professeur, le refus des classements et des notes, la baisse du niveau d'exigence, notamment pour l'orthographe, ça c'est très frappant, la relégation des savoirs essentiels et de tout ce qui peut être vu comme élitiste au profit du ludique, de la moraline ou, pour certains, du hasard. C'est une destruction donc systématique de l'école depuis plus de 50 ans, sous prétexte de rendre l'école toujours plus égalitaire et de promouvoir l'égalité des chances. Mais tout ça a pour double résultat, à la fois, vous l'avez rappelé, un effondrement du niveau scolaire comparativement à nos voisins en Europe et dans l'OCDE, et en même temps, un système scolaire parmi les plus inégalitaires de l'OCDE. Donc on est perdant sur absolument toute la ligne. Comment expliquez-vous ce paradoxe qui n'en est probablement pas un ? Et justement, puisqu'on parlait un peu de politique, vous êtes aussi sévère envers la droite qu'envers la gauche dans votre livre. Et la question qu'on peut se poser à sa lecture, c'est quelles sont là-dedans les parts d'incompétence, d'aveuglement idéologique, mais aussi de malveillance dans ces échecs ? Parce que on a l'impression qu'il y a eu presque un consensus global pour détruire d'une certaine manière l'école, à la fois par une certaine bourgeoisie de droite au pouvoir et par une gauche enseignante, par lâcheté pour les uns, par idéologie pour les autres et par indifférence pour tous, puisque dans tous les cas, leurs propres enfants ne sont rien pénalisés, protégés par les lycées privés, par les cours particuliers ou par la présence d'initiés, professeurs par exemple, dans leur famille.
Je crois que je vais avoir du mal à mieux résumer la situation que vous, parce que c'est exactement ça, c'est-à-dire que comment on explique cette double peine ? Je me suis longtemps posé la question, mais je crois que j'ai une réponse. Ben, cette double peine, elle est liée au fait qu'effectivement, quand vous méprisez la transmission des savoirs, c'est un peu difficile de voir le niveau monter, on n'a pas besoin d'épiloguer là-dessus. Mais de surcroît, quel incroyable aveuglement que de croire qu'en supprimant la lecture des grands classiques, l'obligation de lecture des grands classiques, je prends cet exemple parmi mille autres, vous alliez restaurer une égalité. C'est doublement atterrant. D'abord, c'est atterrant parce que c'est une preuve de mépris social de la part de gens qui sont censés aimer le peuple, qui me laissent sans voix. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire penser que si on fait lire Astérix aux enfants de banlieue, je cite cet exemple parce que c'est un ministre de gauche qui l'a employé devant moi il y a fort longtemps. Eh bien, au moins, ils vont pouvoir aimer la lecture. Enfin, pour moi, c'est absolument la négation de l'esprit de progrès. Voilà. Donc, mais la gauche s'est enferrée là-dedans. C'est-à-dire dans ce mépris de classe au nom du bonisme. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, admettons que vous fassiez ça. Encore une fois, moi, je trouve que déjà, les motivations pour le faire sont extrêmement problématiques. Mais admettons qu'on fasse cela. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer, effectivement, que dans les familles à fort capital culturel, les enfants auront les classiques chez eux. Ils auront de quoi s'armer à travers soit la bibliothèque familiale, les conversations avec leurs parents lors des repas, avec les cours particuliers, comme vous le mentionniez. Ben, ils ont de quoi compenser le fait qu'on leur fasse lire plutôt et analyser des modes d'emploi de fer à repasser pendant les cours de français. Ceux qui n'ont pas ce soutien socioculturel à la maison, eh bien, ils sont perdus. Donc, il ne faut pas être grand clair pour imaginer que sur plusieurs générations, évidemment, vous augmentez les inégalités. Et d'ailleurs, il y a une étude qui a été faite par la direction de l'évaluation de la prévision et de la prospective du ministère de l'Éducation nationale, qui n'est pas tout à fait un repère de réactionnaire, hein, sur le latin dans les collèges de REP+ et de REP. La question, c'était qu'est-ce qui se passe dans ces collèges avec le latin, puisque le latin est considéré par tous les bien-pensants, comme une horrible matière qui est une sorte de catalyseur des inégalités scolaires. Bien. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont constaté ? C'est qu'effectivement, dans ces collèges, eh bien, d'une part, si vous avez des cours de langue et culture de l'Antiquité qui sont dispensés, il y a une moins grande éviction des classes moyennes, qui restent plus volontiers, et surtout, que les enfants issus de catégories socioculturelles défavorisées et qui font du latin ont une augmentation de leur connaissance, de leur compétence, de leur capacité scolaire, qui est bien supérieure à celle qui concerne les enfants de catégories favorisées. Donc, en gros, le latin est un super remède pour les collèges de banlieue. Mais ça, par exemple, ça n'a absolument pas infusé au ministère. Alors après, pourquoi ? Bah, moi, j'aurais tendance à être assez d'accord avec vous. À gauche, par idéologie. À droite, par un mélange de lâcheté et très sincèrement de lassitude. C'est-à-dire que moi, j'ai interrogé à peu près tous les ministres de l'éducation de droite qui sont succédés. Il y en a qui étaient des super lâches et il y en a qui ont fini par être épuisés à, par exemple, vouloir imposer la méthode syllabique. Je pense à monsieur Gilles de Robien. Gilles de Robien, c'est un monsieur qui n'est pas issu du Sérail. Il n'a pas fait ni Normal Sup, ni l'ENA. Il avait un bon sens que je trouvais formidable au moment où il est arrivé rue de Grenelle. Et il a voulu imposer la méthode syllabique. Il n'a jamais réussi. Parce que vous avez toute une hiérarchie intermédiaire, qui est une hiérarchie qui considère que cette espèce de gros nul qui connaît rien de ministre, dans 2 ans, il ne sera plus là, alors qu'eux seront toujours là. Et donc, il y a de la lâcheté, et puis il y a aussi de la lassitude.
Est-ce que derrière, finalement, ce matraquage de la notion de mérite, on n'assiste pas à une trahison des élites, d'abord ? Et je m'explique. Précédemment, on a expliqué que si le mérite a été si vulnérable à la critique, à l'attaque en France, c'est parce que les élites ont oublié un des ingrédients essentiels, celui que Condorcet appelait l'esprit public. De la même manière, l'idée de mérite est souvent associée, par définition, je dirais même, à l'idée de sélection, à l'idée notamment en France de concours, qui sont censés être la méthode de sélection la plus égalitaire, car fondée sur un contrôle des connaissances et une capacité à répondre présent le jour d'une échéance importante. Mais le problème, c'est qu'en France, ces concours sont devenus des sésames pour des vies entières. Ils donnent accès à des grands corps, à des statuts, et ensuite, quelles que soient les compétences, l'exemplarité de ceux qui ont eu ces concours à l'âge de 20, 22 ans, 25 ans, toute leur vie, ils vont pouvoir bénéficier du statut qui leur a été alloué par le concours. Alors, certains vous diraient qu'en France, on respecte beaucoup moins la vertu et les qualités morales que le statut et le diplôme, et que c'est finalement peut-être un vieil héritage aristocratique. Mais ce que je crains, quand on voit la manière dont on a enlevé leur signification au concours et on les a, quelque part, on a enlevé l'exemplarité qui leur a été liée, c'est que ben, on jette le bébé avec l'eau du bain et que donc on jette l'idée de sélection parce qu'en France, elle a contribué à bâtir des élites qui ont quelque part trahi le peuple en n'étant pas à la hauteur de ce qu'elle devrait être.
Tout à fait. Tout à fait. L'idée de l'assurance tout risque à 22 ans est une idée qui pose un réel problème et qui est consubstantielle à la notion d'élite en France. Ne revenons pas sur le destin des membres des grands corps, mais on sait très bien qu'effectivement, un classement à l'ENA décide en gros de votre destinée professionnelle jusqu'à la retraite. Il y a également en France une sorte d'attachement presque enfantin à un certain nombre de diplômes. Vous êtes normalien, vous le direz encore à 60 ans. Comme si c'était une qualité que vous aviez acquise pour la vie. Donc, évidemment qu'on a le mérite qu'on mérite, si j'ose dire. C'est-à-dire que dans la mesure où nous-mêmes, sociologiquement, c'est pour ça, c'est la trahison des élites, mais c'est la trahison... Enfin, c'est une société qui se trahit elle-même, pour moi. C'est-à-dire que, effectivement, les élites sont super responsables. Mais que quelque part, dans notre cerveau reptilien collectif, il y a cette idée que si vous avez réussi un concours, eh bien, ma foi, c'est bien normal que jusqu'à la fin de vos jours, en gros, vous soyez distingué. Et ça, eh bien, ça engendre du désenchantement et du ressentiment.
Sophie Coignard, cela nous intéresserait beaucoup que vous reveniez sur l'arrêt récent qui fait beaucoup de bruit aux États-Unis de la Cour suprême, qui a jugé, contraire à la Constitution, la discrimination positive, c'est-à-dire les procédures d'admission sur les campus, notamment des grandes universités américaines, qui prenaient en compte la couleur de peau ou l'origine ethnique des candidats. Alors évidemment, toute la presse bien-pensante s'en est émue, des deux côtés de l'Atlantique. Le président Biden a exprimé son profond désaccord, sa déception. On a poussé des cris d'orfraie devant cette cour conservatrice, qui plus est, qui a 3 juges nommés par l'infâme président Trump. Si on va au-delà des apparences, je trouve que l'opinion majoritaire, donc, qui est exprimée par John Roberts, qui est donc le juge qui dirige la Cour suprême, et je le cite, « Beaucoup d'universités ont considéré à tort que le fondement de l'identité d'une personne n'était pas sa mise à l'épreuve, les compétences acquises ou les leçons apprises, mais la couleur de sa peau. Notre histoire constitutionnelle ne tolère pas ça. L'étudiant doit être traité en fonction de ses expériences individuelles, mais pas sur des critères raciaux. » Donc ça, c'est l'opinion donc, des juges conservateurs à la Cour suprême, qui suscite tant de scandales, de cris d'orfraie parmi nos commentateurs. Mais je me demande si dans cette indignation collective, il n'y a pas finalement une profonde confusion. La Cour suprême ne demande en aucun cas aux universités de cesser leurs efforts en faveur d'une plus grande diversité. Elle dit d'ailleurs que dans leurs essais, les étudiants qui candidatent aux grandes universités pourront bien évidemment démontrer en quoi leur origine ethnique a pu être un facteur s'il a été discriminant et qui a entraîné pour eux des difficultés supplémentaires pour parvenir justement là où ils sont. Et évidemment, les universités seront autorisées à prendre en compte ce critère si l'étudiant démontre que son origine ethnique a été vraiment un facteur discriminant pour lui. Il me semble que cette opinion de la Cour suprême, et je suis désolé si ça fait scandale de dire ça, mais quelque part, elle est méritocratique. parce qu'elle dit que, eh bien, finalement, il ne faut pas s'arrêter juste à un critère, qui soit un critère ethnique, un critère racial, mais qu'il faut prendre en compte le parcours de vie d'un étudiant, que si l'origine ethnique de cet étudiant joue dans ce parcours de vie et a suscité des difficultés, il faudra le prendre en compte, mais pas automatiquement.
Tout à fait. Le problème, c'est qu'il est très difficile, voire impossible, de défendre le mérite à partir du moment où vous ne vous intéressez pas à l'égalité des chances. Évidemment que l'égalité des chances n'existe pas. La question, c'est comment est-ce qu'on peut essayer de s'en rapprocher. Et dans un univers politique et universitaire où l'égalité des chances, la recherche la plus grande de l'égalité des chances est très présente, eh bien, effectivement, la discrimination positive n'a plus lieu d'être. La discrimination positive, me semble-t-il, est la reconnaissance de l'échec d'une société à vouloir imposer l'égalité des chances. Donc, d'une certaine manière, l'arrêt de la Cour suprême des États-Unis, et je suis vraiment assez loin d'être trumpiste, mais ne me pose pas de problème intellectuel. La question, c'est ce qui se passe en amont. C'est-à-dire, est-ce qu'une société, est-ce qu'un système éducatif est en mesure de donner aux étudiants de couleur, par exemple, les mêmes chances qu'à un étudiant blanc pour parvenir à Harvard, à Yale ou à Princeton? Ça, c'est un vrai sujet. Et je trouve que cet arrêt est un peu silencieux sur cette question-là, qui me semble assez irrésolue, particulièrement aux États-Unis.
En France, où le système est très différent, lorsqu'on parle de discrimination positive, on pense tout de suite à Sciences Po Paris et à l'initiative qu'avait eue Richard Descoings à l'époque de créer des partenariats avec des lycées de ZEP afin que certains élèves particulièrement doués et méritants de ces lycées, qui ne savaient même pas forcément que Sciences Po existait ou que le concours pour entrer à Sciences Po existait, puissent intégrer l'école sans passer par le concours. À mon sens, cette procédure avait beaucoup de mérite et beaucoup de justification, parce que d'une part, elle était limitée, elle n'était pas généralisée, le concours demeurait, et d'autre part, elle constituait à diversifier le recrutement de talents, car les élèves sélectionnés méritaient vraiment d'intégrer Sciences Po. Ils étaient objectivement bons et on ne voyait pas la différence dans les années qui suivaient avec les élèves qui étaient rentrés par d'autres voies, le concours ou en rentrant directement après le bac par la mention très bien, qu'il y avait aussi cela. Mais l'autre réforme ultérieure à Richard Descoings, qui bizarrement a fait moins parler, mais qui me semble beaucoup plus discutable et qui va beaucoup plus dans le sens du propos de votre livre, c'est en revanche la suppression du concours d'entrée à Sciences Po, à la fois en quatrième année, puis en première année, où maintenant toute la sélection se fait intégralement sur dossier. Ça me semble plus dangereux, injuste et porteur d'inégalité. Et là encore, ça revient à tout ce qu'on vient de dire jusqu'à présent. Plus que le mérite, est-ce que ce n'est pas le principe même d'excellence qui est bafoué, car on ne veut plus évaluer le savoir, mais des compétences et des engagements. Il y a là une certaine négation de la culture et du savoir. Et bien sûr, l'exemple de Sciences Po fait parler, mais la répartition, le système AFLNET aujourd'hui, qui est la répartition des élèves dans les lycées, c'est un système par algorithme. L'algorithme a des facteurs, et le facteur résultat n'arrive qu'en troisième, enfin vous l'expliquez...
Quatrième,
vous l'expliquez excellemment bien dans votre livre, n'arrive qu'en quatrième position, derrière des facteurs sociaux, etc. Alors, est-ce que c'est cette tendance-là, selon vous, Jérémy vient d'évoquer la question américaine qui est très différente, mais est-ce que cette tendance peut-elle être réversible, ou est-ce que c'est l'effet de ce wokisme appliqué à l'éducation et à la sélection, va-t-il être durable?
Alors ça, j'aimerais bien le savoir. Je ne sais pas. En revanche, sur la première réforme des coins, j'ajouterais quelque chose par rapport à ce que vous avez dit. C'est que moi, il y a quelque chose qui m'avait semblé très important et incontournable, vu qu'en France, on ne fait pas de statistiques ethniques. Mais c'est que le critère retenu était un critère géographique. Je trouvais que c'était une manière de répondre, enfin, de renvoyer dos à dos les adversaires et de la discrimination positive et les partisans forcenés de la discrimination positive, que de dire ce sera un critère géographique. Tel lycée est considéré comme étant en zone sensible, donc il sera admis, sur la base du volontariat évidemment, dans notre programme. Donc voilà, je trouvais que ça, c'était vraiment intelligent. C'est la première chose. Deuxièmement, est-ce que effectivement il y a une réversibilité? Je n'en sais rien. Mais tout ça a commencé il y a fort longtemps par la suppression, avant même la suppression du concours, il y a eu la suppression de l'épreuve de culture générale à Sciences Po, si je ne m'abuse. Et déjà, c'est un sujet sur lequel on pourrait consacrer une heure de débat. Qu'est-ce que ça veut dire que supprimer l'épreuve de culture générale ? Ça veut dire que vous... Enfin, selon moi, c'est une manière d'entériner de manière absolue non seulement les thèses de Pierre Bourdieu, mais les thèses mal digérées de Pierre Bourdieu. Parce que si vous lisez Pierre Bourdieu, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc, c'est l'idée, toujours la même, que vous ne pouvez pas avoir une culture générale, comment dirais-je, maîtrisée, organisée, si vous n'êtes pas issu d'un milieu favorisé. Alors, évidemment que oui, que ça joue, que c'est plus facile quand vous avez des petits cours des parents super informés, très attachés à votre réussite. C'est un peu plus facile de réussir que si vous avez des parents indifférents qui bossent toute la journée, qui rentrent à des heures pas possibles et qu'en plus vos camarades de classe eux-mêmes ne sont pas forcément dans l'émulation. Il faudrait quand même être de très mauvaise foi pour ne pas le reconnaître. Mais encore une fois, quels sont les remèdes à apporter à cela ? C'est-à-dire que c'est ce que disait tout à l'heure Jérémy Gallon et que je mentionne, c'est une expression que je mentionne dans mon bouquin, on a l'impression qu'on est en permanence dans cette histoire de bébé et d'eau du bain. C'est-à-dire que comme on a un problème d'égalité des chances, eh ben on va tout supprimer. On va supprimer l'idée que finalement, si vous avez beaucoup travaillé, si vous avez fait beaucoup d'efforts, si vous êtes très motivé, si vous êtes talentueux, eh bien oui, vous allez être admis à un concours. Non, ça devient tout à coup absolument obscène. Et c'est cette confusion mentale qui m'a dérangée tout au long de mon enquête, cette confusion mentale entre, d'une part, la nécessaire ardente obligation de vouloir être le plus proche possible de l'égalité des chances, qui me paraît être un projet politique absolument cardinal, et d'autre part, le fait de se dire, par pur défaitisme, et pour un bout par mépris social, de toute façon, on n'y arrivera jamais. Donc, supprimons les concours, supprimons le mérite, et puis faisons du tirage au sort, et puis voilà. Cette espèce de fatalisme débonnaire qui me paraît quand même être à la base d'un renoncement absolu.
Sophie Coignard, votre ouvrage démontre brillamment, je pense que, à titre personnel, je partage complètement cette analyse, qu'en tuant le mérite, on a recréé les conditions finalement d'une société bloquée au profit des privilégiés qui nous ramène au XVIIIe siècle. Et le mépris des savoirs et des connaissances est aussi en train de faire de la France quelque part un pays pauvre et de plus en plus dépendant des autres puisque nous n'avons plus les conditions pour écrire l'histoire. Dans ce contexte, on serait tenté de dire recréons de la méritocratie républicaine. Et immédiatement, on a souvent en tête l'image qu'on lui associe de la Troisième République. Donc, l'option ne serait-elle pas de rétablir un élitisme républicain exigeant et juste ? Mais là où j'ai une question pour vous, c'est que ce qu'on a tendance à oublier, c'est que sous la Troisième République, et par exemple en 1914, il n'y avait que 3% de bacheliers. Et donc, dans une époque qui connaît la massification du système scolaire, où on a des taux, je crois, de réussite au bac qui viennent d'être annoncés, qui sont supérieurs à 90%. Comment est-ce qu'on recrée une méritocratie républicaine ?
C'est un sujet, d'ailleurs, sur lequel on voit bien avec quelle prudence avance l'exécutif. Prenons l'exemple de Parcoursup. On peut en penser ce qu'on veut, mais Parcoursup est une manière d'essayer de restaurer un peu de sélection à l'université, sans le dire. Alors évidemment, cette espèce de fourberie, j'allais dire politique, est peut-être nécessaire. C'est-à-dire si du jour au lendemain, vous dites « alors on va rétablir y compris la sélection à l'université », moi je comprends qu'un responsable politique ait un peu peur du désordre que ça va engendrer. Mais d'un autre côté, ce qu'on fait relève de la psychose gouvernementale, c'est-à-dire l'idée de se dire « alors on va faire de la sélection, mais en fait on ne peut pas dire qu'on fait de la sélection. Donc on va le faire avec un algorithme qui va quand même être tempéré par un certain nombre de choses, qui de surcroît annonce les résultats à partir du mois d'avril, ce qui fait que en gros vous avez des lycéens de terminale qui ont en gros un troisième trimestre qui n'existe pas quand vous savez qu'il y a déjà eu 600 heures de français supprimées au cours des 30 dernières années, vous vous dites est-ce que c'est vraiment l'idée du siècle ? Donc, on voit bien que l'équation est complètement surdéterminée. Je ne sais pas quoi vous répondre. Car je pense en effet que la solution politique, personne ne l'a trouvée pour l'instant. Et donc, on bricole. Je pense qu'en vérité, tout le monde bricole. Est-ce qu'il faut... Je serais presque tentée d'être indulgente vis-à-vis de ce bricolage. Je suis évidemment indignée, mais en même temps, je ne suis pas sûre, je suis même sûre du contraire, je ne suis pas sûre d'avoir la solution. C'est extrêmement complexe, c'est un problème extrêmement complexe. Est-ce qu'on peut restaurer aujourd'hui un système fondé sur le mérite, à part, encore une fois, mettre le paquet sur l'égalité des chances ? En espérant que dans les 20 prochaines années, le wokisme va prendre quelques couleurs pâlissantes et que cet investissement dans l'égalité des chances portera lui quelques fruits. Mais j'ai l'impression d'être au bord de l'utopie quand je vous dis des choses comme ça.
Sophie Coignard, nous avons beaucoup parlé d'école et d'enseignement, mais la question du mérite se pose dans la vie professionnelle, dans d'autres sphères. Votre livre s'intitule « La tyrannie de la médiocrité ». Alors, encore une fois, on le comprend parfaitement dans le système éducatif, le chapitre où vous énumérez les sujets de thèse totalement loufoques et très éloquents à ce sujet. Le problème est qu'il faut désormais passer sous les fourches codines du communautarisme, de l'idéologie déconstructionniste, l'idéologie du genre, de la race notamment, si on veut avoir droit de citer et d'expression dans certains milieux universitaires. D'où une confusion des ordres et d'où le concept de tyrannie. Mais au-delà de l'éducation, donc, quels sont les autres champs où vous observez cette tyrannie de la médiocrité ? Est-ce que cet état de fait dans l'école, école qui est le fondement de tout, s'est traduit au bout de une, deux, bientôt trois générations à d'autres sphères, qu'il s'agisse de la politique ou de la culture ou des médias, par exemple ?
C'est sûr, quand même. J'allais dire la politique et le service public en général, qu'on a les meilleures mesures de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que vous avez quand même une désertion, a priori et a posteriori, des gens brillants qui entendent faire carrière dans le service public. Vous avez moins de candidats à l'ENA. Et une fois que les élèves de l'ENA sont sortis de leur école, ils passent quand même de moins en moins de temps, notamment ceux qui sont très bien sortis et qui sont membres des grands corps, passent de moins en moins de temps dans le service public. Quand je dis ça, c'est vrai pour l'ENA, c'est vrai aussi pour Polytechnique. C'est-à-dire que vous prenez le corps des mines aujourd'hui ou hier, eh bien, c'est pas du tout pareil. C'est-à-dire qu'avant, les polytechniciens du corps des mines, en gros, partaient vers 45 ans, vers le secteur privé. Aujourd'hui, ils partent entre 30 et 35 ans. Parce que c'est la résultante de deux forces qui convergent. D'une part, la dévalorisation, j'allais dire, des métiers de service public et des perspectives qui sont ouvertes, etc. Et d'autre part, la survalorisation du destin professionnel et du destin financier, notamment, qui peut être le vôtre quand vous optez pour une carrière dans une grande entreprise du CAC 40. Donc, effectivement, en ce qui concerne la haute fonction publique, ce problème se pose. Et il se pose aussi en politique, parce que les règles du jeu sont devenues de plus en plus cruelles du fait des réseaux sociaux, que s'exposer en politique aujourd'hui me semble beaucoup plus compliqué que ce que c'était il y a, par exemple, 40 ans. Et donc, quand vous êtes brillant, est-ce que vous allez vraiment vouer votre vie au service des autres et au service du pays? Ça existe, mais comme disait un président du Conseil dans un célèbre film, c'est comme les poissons volants, c'est pas la majorité de l'espèce.
Qui crée d'ailleurs un cercle vicieux, puisqu'on aurait besoin d'une élite politique meilleure et meilleure pour justement rebâtir cette méritocratie républicaine, et vous nous décrivez une classe politique qui chute. Peut-être une dernière question, on a été quand même assez dur, notamment sur le thème de la discrimination positive, mais, et vous le rappelez d'ailleurs dans votre ouvrage, le mérite ça n'est pas une idéologie, et tout le monde convient que des biais sont parfois souhaitables afin de rétablir davantage d'égalité, notamment d'égalité des chances. En France, par exemple, la loi Copé-Zimmermann de 2010 a introduit des quotas d'hommes et de femmes dans la composition des conseils d'administration des grands groupes. Et il est intéressant de voir que beaucoup de gens qui étaient opposés initialement, y compris des femmes, ont finalement été assez convaincus par la mise en œuvre de cette loi, parce qu'elles reconnaissent que sans cette loi, sans ces quotas, il n'y aurait pas eu de transformation au niveau des conseils d'administration, et il n'y aurait pas eu ce rôle quasiment moteur de certaines femmes qui ont commencé à prendre des places dans les conseils d'administration, ce côté un peu rôle modèle. Et donc, quelle frontière mettre entre les revendications, selon vous, d'égalité des chances et d'égalité des places ?
C'est un grand, grand sujet. Et alors là, pour le coup, c'est une thématique hautement politique et hautement inflammable politiquement. Mais vous avez raison de citer cet exemple de la loi Copé-Zimmermann, parce que dans un précédent ouvrage que j'avais consacrée au conseil d'administration, j'avais été absolument, j'allais le dire, bouleversée par les résultats de cette loi, c'est-à-dire le fait que la France était vraiment lanterne rouge. On était un pays terriblement sexiste dans les grands conseils d'administration. Les femmes représentaient 2%. Et donc, à l'époque où la loi Copé-Zimmermann a été votée, il y avait quand même des ricanements virils un peu partout, grandes associations du patronat, pour dire c'est sûr, 40% rire. Et puis, on est arrivé au-delà de 40%. Et aujourd'hui, c'est devenu une norme évidente. Et aujourd'hui, quand vous discutez avec des membres de conseil d'administration ou avec des membres des COMEX des grandes entreprises, ils vous disent tous que les femmes, et ils ne le disent pas juste on the record pour faire bien pensant bon genre, mais ils vous disent que les femmes ont apporté quelque chose. Pourquoi ? Bah, parce qu'elles avaient d'abord approuvé, donc elles ont travaillé à peu près 4 fois plus que n'importe quel représentant. Enfin, administrateur mâle, et puis que voilà, il y avait, elles ont vraisemblablement une approche pour certaines d'entre elles un peu différente des sujets, et que donc ça apporte une espèce de pluralité de points de vue qui est très favorable au conseil d'administration. Donc effectivement, je vous vois venir. Vous voulez me dire, bah, transposons cela dans d'autres domaines. Mais après tout, c'est exactement ce que voulait faire Richard Descoings à Sciences Po. Ce que voulait faire Richard Descoings à Sciences Po, et qui, me semble-t-il, a assez bien fonctionné, c'est exactement cela. Donc, la discrimination positive, ce qui est terrible, c'est qu'en France, ça, enfin, c'est très français, votre avis sur la discrimination positive détermine votre positionnement politique et idéologique. On peut vous classer uniquement à partir de ça. Or, là, il y a 50 nuances de discrimination positive. Et donc, il y a évidemment des opérations de discrimination positive très intéressantes à mener. Et je vais vous raconter une petite anecdote qui concerne l'ESSEC. L'ESSEC, donc, qui est une école de commerce, a été l'une des premières à prendre des initiatives en matière de cordée de la réussite, mentorat, etc. Créer ce fameux mantra qui s'appelle « Une grande école, pourquoi pas moi ?» Et néanmoins, bah, au fil des ans, il faut bien reconnaître, il faut être absolument lucide, que ça marche pas très, enfin, ça marche pas très bien. C'est-à-dire que la surreprésentation des enfants, de cadres, de profs, etc., dans des écoles comme l'ESSEC ou HEC ou le SCP est encore extrêmement importante. Donc, on n'est pas du tout dans le syndrome des conseils d'administration. On n'a pas réussi le basculement. Et donc, l'ESSEC a tenté ce qu'ils appellent le double appel. C'est-à-dire qu'en gros, et c'est contre-intuitif, ils sont aperçus que parmi les gens qui sont admissibles, donc qui peuvent passer la deuxième phase où il y a un oral qui compte pour beaucoup, eh bien, si vous baissez la barre d'admissibilité de 1 ou 2 points, je me souviens plus très bien, mais enfin, vous la baissez un peu pour les étudiants boursiers. Eh bien, vous leur dites, ben voilà, vous n'étiez pas normalement admissible, vous êtes boursier, vous serez admissible, c'est-à-dire vous avez le droit de passer les épreuves orales. Ça ne veut pas dire qu'ensuite, on va leur donner des points de bonus ou n'importe quoi. Ça veut dire qu'on leur donne une chance en plus. Et que, curieusement, l'oral s'est révélé moins discriminant que l'écrit. Ce qui, moi, m'a beaucoup étonnée, mais c'est comme ça. Donc, l'ESSEC fait ça. Alors, ça ne va pas bouleverser, puisqu'au bout du compte, on compte quand même vos points. C'est-à-dire, si vous étiez un peu en dessous de la barre d'admissibilité, que vous avez 18, vous allez être admis. Mais si vous avez la même note que celui qui était un peu au-dessus de vous, bah, tant pis, vous ne serez pas admis. Donc, c'est un mélange de discrimination positive et de méritocratie pure et dure. Très bien. Et ce qui était assez amusant, qui m'a été raconté par une des femmes qui a promu et imaginé ce programme, c'est que parmi les gens les plus défavorables à ce double appel, eh bien, il y avait les élèves boursiers qui avaient intégré cette grande école les années précédentes et qui considéraient qu'il n'y avait pas de raison. Donc, c'est là où ça complexifie encore un peu plus le problème de ces regards sur la discrimination positive. Mais pour essayer de répondre simplement, je dirais qu'en France, et d'ailleurs, je pense dans beaucoup de pays, on a une vision trop idéologique de ce que doit être la discrimination positive. C'est un mot piégé, enfin, c'est une expression piégée, c'est une expression pollué, et il y a évidemment des, enfin, toute initiative à prendre pour restaurer l'égalité des chances est bonne. Après, est-ce que c'est de la discrimination positive ou pas? Tant que l'idée de mérite est respectée, moi, je n'ai que du bien à en dire.
Merci, Sophie, de rappeler qu'il y a 50 nuances de discrimination positive et que c'est un débat complexe. Nous terminerons par une question peut-être un peu plus personnelle, à vous qui êtes une journaliste, essayiste, commentatrice de la vie politique, sans nier l'importance, bien sûr, de la notion de mérite. On serait contradictoire avec tout ce que nous avons dit jusqu'à présent. Le concept, parfois, porte en lui une certaine part de flou. Alors, on ne parle pas de l'éducation, mais un peu pour tout le reste du champ humain. Une part de flou qui le rend un peu inopérant. Par exemple, en sport, Qu'est-ce que mériter de gagner un match ou une compétition ? La France de Platini en 82 méritait probablement, d'un point de vue esthétique ou moral, de battre la RFA à Séville, mais finalement, le mérite compte-t-il ? Dans un autre champ, la politique, que vous connaissez très bien, est-ce le mérite une notion pertinente ? Jacques Chirac méritait-il plus d'être président qu'un Édouard Balladur, par exemple ? Si la compétence et l'honnêteté ne constituent pas nécessairement les premiers critères de mérite en politique, que voudrait dire alors mériter en politique ? Donc on pourrait dire basiquement que mériter en politique, c'est d'obtenir une voix de plus que son adversaire. Mais on voit bien que cette définition ne peut pas tellement convenir. Et si l'on voulait être un peu provocateur, on pourrait même dire qu'un homme ou une femme politique qui arriverait à de hautes responsabilités, j'ai pas de nom en tête, bien évidemment, mais qui arriverait à de hautes responsabilités sans expertise, ni travail, ni même sens de l'esprit public, ben elle aurait tout de même quelques mérites, au moins celui de s'être fait apprécier des bonnes personnes ou d'avoir construit un rapport de force favorable qui l'a mené à cette position. Donc lorsque, comme vous, on est une commentatrice de la vie politique, comment arbitrer entre ces différents mérites possible, sans tomber dans le moralisme, sans tomber dans le relativisme et sans tomber dans le cynisme.
Alors, je vous finirai par vous poser une question, c'est d'accord, mais on fait comment ? Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, je vais vous répondre en deux temps sur le sport. C'est un très bon exemple, parce que le sport, là, on fait comment ? C'est-à-dire, ouais, peut-être que finalement, celui qui a terminé dixième, le sprint de 100 mètres, c'est un type, il s'est plus entraîné, puis à la base, enfin, c'est un type plus sympa, enfin, etc. Mais alors, on fait quoi ? On fait en sorte que tout le monde arrive sur la même ligne d'arrivée ? Enfin, je n'ai pas de solution. Et donc, je pense que la compétition est le meilleur système en sport, à l'exception de tous les autres. Ça, c'est la première chose. En politique, bah, y a au moins quelqu'un qui pense qu'effectivement, il aurait dû gagner. Ça, on le voit depuis des années, je ne citerai personne, mais il y a un candidat qui a fini troisième, et il pense vraiment que ça devrait être lui le président. Donc on voit bien que des gens ont l'idée que leur mérite est tellement grand que l'élection n'en rend pas compte. Ça existe. C'est terriblement dangereux, parce que l'élection est altérée par des milliers de facteurs, par le fait que Monsieur X et Madame Y décident d'aller à la pêche ce jour-là pour une raison quelconque. Peut-être que ce seront les deux voix qui manqueront au candidat le plus méritant. Enfin, je pourrais vous en citer beaucoup, beaucoup. Donc finalement, en politique, l'ultime juge de paix, ben, c'est l'urne. Et c'est très bien comme ça.
Sophie Coignard, dans votre ouvrage, vous condamnez, en reprenant les propos de David Goodhart, cette aristocratie cognitive qui prétend tout expliquer et avoir réponse à tout. Vous nous permettrez donc de ne pas répondre à la question de savoir quel pourrait être un système alternatif et de reconnaître que nous n'avons pas la réponse. Mais nous souhaitons en revanche vous remercier pour ce très bel entretien et nous étions très heureux de vous recevoir pour échanger avec vous sur cet essai passionnant, La tyrannie de la médiocrité, aux éditions de l'Observatoire.
Merci.
Merci Sophie. Fin de cette conversation très intéressante avec Sophie Coignard. Jérémy, il est temps d'aborder pour la dernière fois de cette saison nos coups de cœur de la semaine, avant une sélection estivale de nos coups de cœur un peu préférés de cette dernière année. Et Jérémy, pour l'occasion, tu voulais évoquer un grand personnage de l'histoire de France qui démontra un grand mérite politique, même s'il fut aussi un maître du népotisme, Armand Jean Duplessis, plus connu sous le nom de cardinal de Richelieu.
Oui, je souhaitais consacrer ce dernier coup de cœur de la saison à la figure de Richelieu à travers un petit essai que j'ai lu au cours des derniers jours, qui a été écrit par Arnaud Tessier, qui est intitulé « Richelieu, la puissance de gouverner » et publié en 2007 aux éditions Michelon. Alors Arnaud Tessier a été un grand commis de l'État, c'est quelqu'un qui, au meilleur sens du terme, au sens noble du terme, qui a été inspecteur général de l'administration, un fonctionnaire ou fonctionnaire du ministère de l'Intérieur pendant assez longtemps, et qui en parallèle, parce qu'il faut toujours mener plusieurs vies, a été historien et a consacré de très belles biographies, notamment à Lyautey, Péguy, Richelieu et Philippe Séguin. Il a toujours eu un fil directeur dans son œuvre d'historien, c'est la question des rapports entre l'État et la société en France. Sur la figure de Richelieu, en plus de cette biographie, il a également consacré ce petit essai que j'ai lu, intitulé « Richelieu, la puissance de gouverner ». Et je trouvais que c'était un essai absolument passionnant parce que d'une actualité saisissante. En fait, il revient sur cette figure qui est un peu accompagnée d'une légende noire en France. La figure de Richelieu, c'est à la fois cet homme qui est un des plus grands hommes d'État de notre histoire, Je pense que si on devait tisser un fil dans le temps long, il y aurait probablement Richelieu, ensuite Bonaparte, De Gaulle. Si on doit aller vers d'autres figures dans le passé, on tirerait un fil vers Henry Kissinger, qui d'ailleurs s'intéresse beaucoup à la figure de Richelieu, notamment dans son ouvrage Diplomatie. Et je pense que la légende noire de Richelieu vient à la fois de l'interprétation qui en a été faite par des écrivains, notamment durant l'ère romantique. Alors évidemment, c'est la légende noire de Richelieu dans Les Trois Mousquetaires de Dumas, mais si aussi Alfred de Vigny dans 5 mars. Mais c'est aussi parce qu'il incarne, plus que tout autre Richelieu, la raison d'État, parce que c'est le fondateur de l'État moderne. Et la raison d'État, évidemment, en France, c'est un concept avec lequel on a du mal, que l'on oppose souvent à l'État de droit. Arnaud Tessier remet ça un petit peu en perspective. Je trouve qu'à l'heure où notre système démocratique semble avoir perdu la maîtrise de lui-même, et où on s'interroge sur le sens même du pouvoir, eh bien Richelieu, à la fois homme d'Église et homme d'État, nous instruit sur l'origine, et finalement la signification et peut-être l'avenir, du récit politique français. Alors, j'aimerais commencer par une citation extraite du Testament politique, qui est ce texte qu'a laissé à la fin de sa vie Richelieu. Et je trouve une citation, Romain, qui est d'une actualité saisissante, surtout dans les temps actuels et après les événements récents que l'on a connus. Et je cite Richelieu. « Il a été un temps qu'on ne donnait en ce royaume aucun ordre par précaution. Et lors même que les maux étaient arrivés, l'on n'y apportait que des remèdes palliatifs parce qu'il était impossible d'y pourvoir absolument, sans blesser le tiers et le quart de l'intérêt particulier qu'on préférait alors au public. Cela faisait qu'on se contentait d'adoucir les plaies au lieu de les guérir, ce qui a causé beaucoup de maux dans ce royaume. » Et on voit bien en fait là la philosophie de Richelieu qui se dessine, c'est-à-dire faire prévaloir l'intérêt général, l'intérêt de l'État, l'intérêt de la France sur l'intérêt particulier. Et donc, il part d'un principe, c'est que l'être humain est par nature faillible, peu prompt à décider ou à trancher dans la rationalité et la constance. Et donc, il faut avoir un impératif d'efficacité dans l'action politique. C'est vraiment ce qui va guider l'action de Richelieu et qui doit permettre à la société, à la France en l'occurrence, d'éviter la pire menace qui pèse sur elle, à savoir la guerre civile. Parce que lorsque Richelieu arrive au pouvoir, il faut quand même se souvenir que lorsqu'il se met au pouvoir d'abord de Marie de Médicis avant de se mettre au service de Louis XIII, la situation en France est extrêmement instable, comme l'a rappelé l'assassinat récent d'Henri IV par Ravaillac. Et donc, aujourd'hui, on est dans une situation aussi d'instabilité, où le terme de guerre civile revient de plus en plus dans le vocabulaire des commentateurs politiques, de ceux qui analysent la société française. Je trouve que sa réflexion est extrêmement intéressante. Autre point, je trouve très intéressant chez Richelieu, c'est qu'il soulignait que le simple fait de s'abstenir d'agir lorsque l'on gouverne un État peut constituer un acte authentiquement criminel. Le crime suprême pour un homme d'État, c'est de ne pas agir, de laisser le destin s'accomplir sans chercher à le dominer. Évidemment, quand tu lis ça, tu peux penser à des présidents de la République récents, sans le citer notamment par exemple Jacques Chirac, où tu te dis pendant 12 ans, il n'y a effectivement eu aucune décision qui a été prise. Et Tessier fait un lien, alors aussi une figure extrêmement controversée, mais je trouve qu'il avait mis les mots là-dessus, c'était Margaret Thatcher qui disait que l'une de nos plus grandes faiblesses actuelles, de la société actuelle, c'est ce qu'elle appelait en anglais le « distaste for power », c'est-à-dire la répugnance pour l'exercice effectif du pouvoir qu'elle voyait comme étant la marque des dirigeants contemporains. Et à l'inverse, effectivement, Richelieu, c'est quelqu'un qui va exercer le pouvoir, qui va, ce que Arnaud Tessier appelle, je trouve dans une très belle formule, reproduire quotidiennement le miracle du pouvoir. Mais ce que tu vois bien, et là où Tessier, et finalement Richelieu aussi dans son testament politique, est d'une immense lucidité, c'est qu'il n'y a aucune volupté dans l'exercice du pouvoir, qu'au contraire, ça le consume physiquement, ça le consume humainement, et que c'est extrêmement dur. Et je terminerai sur un point, au-delà du fait que le pouvoir est sans volupté chez Richelieu, c'est que Arnaud Tessier rappelle que très souvent, on oppose effectivement la raison d'État à l'État de droit. Mais il explique qu'aujourd'hui, malheureusement, ce que notre société désigne par État de droit, c'est trop souvent un État passif, privé de ses défenses, qui a renoncé à cette intraitable fermeté qu'il fait le lien entre Richelieu et une autre grande figure de l'histoire, la américaine George Washington, le premier président des États-Unis d'Amérique, qui définissait en cette intraitable fermeté la substance même de la liberté et de l'unité de la nation. Et lui, dans ce qui était son testament politique quelque part, son adresse d'adieu au peuple des États-Unis, il avait eu cette phrase que n'aurait pas renié Richelieu, et je cite Washington, « La liberté n'existe que de nom, lorsque le gouvernement est trop faible pour réprimer les factions, lorsqu'il ne peut contenir chaque membre de la société dans les limites qui sont assignées par les lois et qu'il est incapable de procurer à tous les citoyens la paisible jouissance de leurs droits. » Bien, je trouve que moi, un petit peu dans toutes ces leçons de Richelieu, il y a un peu une feuille de route pour nos dirigeants politiques, à un moment où il serait urgent d'appliquer tous ces principes. Mon cher Romain, je crois que toi, ton dernier coup de cœur, tu voulais revenir sur une très belle exposition qui est consacrée à l'architecte britannique Norman Foster au Centre Pompidou.
Tout à fait. C'est une exposition qui m'a vraiment enthousiasmé. L'exposition Norman Foster, consacrée à cet architecte remarquable et qui se tient au Centre Pompidou jusqu'au 7 août, donc il ne faut pas tarder à aller la voir. Il s'agit d'une exposition vraiment très spectaculaire, extrêmement riche, qui rend hommage au génie humain à travers cet art qu'est l'architecture et bien entendu à travers l'œuvre d'un des plus grands architectes contemporains, Norman Foster, qui a lui-même supervisé la mise en scène de cette exposition à plus de 88 ans. Norman Foster, il est à l'origine de créations architecturales bien connues partout dans le monde, en France notamment, puisqu'on lui doit le viaduc de Millau, le carré d'art à Nîmes, le tout récent musée régional de la Narbonne antique, ou encore l'aménagement entier du vieux port de Marseille, et la fameuse ombrière miroir qui est un peu aujourd'hui un des symboles du vieux port. Dans le monde, il serait trop long d'énumérer toutes les réalisations de Foster, mais on peut citer notamment le palais du Reichstag à Berlin, le Millennium Bridge à Londres, le nouveau stade de Wembley et quelques gratte-ciel extrêmement célèbres comme le 30 St. Mary Axe, appelé aussi le Cornichon, à Londres. L'exposition est magnifique car au-delà d'un nombre impressionnant de croquis et de dessins qui sont très riches en enseignements sur le processus créatif de Foster ainsi que ses mantras comme KISS, Keep it simple, stupid, ou bien la seule constance, c'est le changement. Au-delà de toutes ces ébauches aussi, il y a les maquettes de toutes ses principales réalisations. Dans cette exposition, on voyage donc énormément au gré des projets de Foster, du Japon à San Francisco, de la Chine au Koweït, dans des immenses métropoles qu'il a contribué à repenser en tant qu'urbaniste, comme dans des plus petites villes de France, d'Espagne ou des États-Unis, dans lesquelles Foster va construire des musées, des gares, des antennes, des lycées, etc. On est extrêmement dépaysé, bien que l'on ne se trouve qu'au sixième étage de Beaubourg, et on voyage d'autant plus que Foster s'est également imposé comme une référence dans la construction des gares et des aéroports, avec des œuvres magnifiques comme le Terminal 3 de l'aéroport de Pékin, ou encore le Spaceport America dans le Nouveau-Mexique, qui est destiné au voyage spatial. Et on voit aussi très bien ce qu'aurait dû être le magnifique nouvel aéroport de Mexico, avant que le président López Obrador vienne mettre son veto, alors que les travaux étaient déjà lancés pour en construire un autre bien moins moderne, bien moins efficace et bien plus éloigné de Mexico. Se référer à notre épisode spécial Mexique, on en avait parlé tous les deux de ce scandale. Et puis, toutes ces maquettes impressionnantes sont sublimées par leur arrière-plan, les toits de Paris. Et donc, quand tu vois la célèbre tour de la Banque nationale du Koweït avec le Sacré-Cœur de Montmartre en fond, cela rend formidablement bien. L'œuvre de Foster est d'une modernité incroyable, car sa pensée d'architecte et d'urbaniste est dédiée à créer une harmonie entre nature et activité humaine, avec comme objectif depuis des décennies, puisqu'il dessine depuis les années 60, comme objectif de créer un meilleur respect des ressources de la planète. Il a par exemple révolutionné la construction des buildings en les faisant reposer sur un exosquelette extérieur, ce qui les rend très reconnaissables visuellement, mais surtout ce qui leur permet d'être plus aérés et plus favorables à l'environnement. Et dans toutes ces constructions en pleine nature, qu'il s'agisse de villas, de musées, de lycées, Foster fait toujours en sorte que les bâtiments se fondent, voire se cachent dans les paysages, donc à la fois au service de l'esthétique et au service tout simplement de l'environnement. Et tout cela est d'une modernité vraiment impressionnante parce que le voyage ne s'arrête pas à la Terre. Désormais, Norman Foster et ses équipes réfléchissent à l'architecture sur la Lune ou sur Mars, non seulement pour préparer de futures expéditions spatiales, mais aussi pour apprendre à construire, même sur notre planète Terre, dans des conditions très difficiles, parfois extrêmes. Et donc, c'est une exposition merveilleuse que je recommande vivement. Et avec, pour terminer, un petit clin d'œil à celui qui m'a fortement recommandé cette exposition, et je l'en remercie, mon ami architecte Charles Versigne, qui vient de remporter un très beau projet avec son cabinet, avec son père et avec son frère. C'est la rénovation et la requalification complète de la place du Diamant officiellement place Charles de Gaulle, qui est la grande place centrale d'Ajaccio. Et donc, ils vont totalement repenser cette place. La seule constance, c'est le changement, disait Foster. De changement, cette place, on avait vraiment bien besoin. Et mes amis ont le savoir-faire et le goût pour en faire un espace très beau, très vert et qui renoue avec son histoire. Donc, l'architecture, plus que jamais, au centre de nos vies, de nos intérêts. Et cette exposition, même lorsqu'on n'est pas architecte, même lorsqu'on n'est pas spécialiste de l'architecture, et je ne le suis absolument pas, est vraiment passionnante. Donc, à voir impérativement avant le 7 août.
Merci beaucoup, Romain, pour ce très bel hommage à Norman Foster et puis aussi ce clin d'œil amical. C'est la fin de ce dernier épisode de la saison. Le temps est venu de vous souhaiter à tous de très belles vacances. Et nous serons très heureux de vous retrouver à la rentrée pour une nouvelle saison du Corse et de l'Auvergnat.
On aura beaucoup à commenter à la rentrée parce que l'été risque d'être riche. Et puis en attendant, notre petite sorte, entre triple guillemets, de best-of avec nos coups de cœur antérieurs. Et à très vite.